Mon parcours avec le Covid long. Tout d'abord, je dois vous rappeler que je ne suis pas médecin. Je partage une expérience personnelle et ce blog ne doit pas être considéré comme un conseil médical. Bienvenue sur mon blog. Je raconte ici mon parcours avec la maladie chronique, le Covid long et l'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique. Je vais le désigner sous le terme EM ou SFC dans la suite des posts. Ici, je partage où j'en suis et ce qui m'a le plus aidé en 20 mois de maladie. Je me souviens à quel point il a été important pour moi de lire des histoires positives d'autres personnes et de savoir que même au plus profond de la maladie, l'espoir a toujours une place. Parce que mon histoire est remplie d'espoir. Avant la tempête, je suis une femme de 32 ans et je vis en France. J'ai eu le Covid pour la première fois en janvier 2024. À cette période, j'étais très active et globalement en bonne santé. J'avais un travail à temps plein, plutôt exigeant, je m'étais mise au sport l'année passée et j'avais de nombreux projets. Je n'étais pas vraiment le genre de personne qu'on considère comme un risque pour le Covid. Je souffrais tout de même d'anxiété chronique et d'un antécédent de dépression. Dans ma vie, j'ai toujours avancé coûte que coûte, sans jamais m'offrir de pause, pendant mes études, puis au travail. Mon corps m'envoyait déjà beaucoup de signaux que j'étais en train de tirer sur la corde. Mais nous vivons dans un monde qui nous encourage à en faire toujours plus et à nous forcer. C'est donc ce que j'ai fait. Je pense que tout cela a contribué à me fragiliser face au risque de Covid long. La phase aiguë. L'infection aiguë a été légère, je n'ai pas été hospitalisée. Les premiers jours, j'ai eu l'impression d'avoir un gros rhume. J'ai été voir mon médecin traitant, qui m'a dit que le Covid n'était qu'une grippe et m'a donné un arrêt maladie de 3 jours. Après une semaine de repos, au lieu d'aller mieux, j'ai commencé à avoir de nouveaux symptômes étranges. J'avais des douleurs thoraciques et le cœur à 120 après avoir monté mon escalier. J'avais du mal à réfléchir, je me réveillais en plein milieu de la nuit dans un état de confusion intense. Je savais que le Covid long existait et que certaines personnes ne guérissaient pas, même des années après leur infection. J'étais terrifiée. Une nuit, les douleurs sont devenues trop importantes et je suis allée aux urgences. Tous les tests étaient normaux. Je suis rentrée à la maison et mon corps s'est effondré. J'ai passé toute la journée au lit avec d'horribles nausées, le cerveau dans un brouillard complet et mon corps lourd comme du plomb. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose était en train de très mal tourner. Dans les semaines qui ont suivi, les symptômes n'ont fait qu'augmenter. Je suis retournée plusieurs fois voir des médecins, parfois à peine capable de tenir debout ou de garder les yeux ouverts. J'ai insisté pour leur faire comprendre que mon état n'était pas normal, mais les tests médicaux étaient tous normaux. Rien n'expliquait médicalement mes symptômes. Comme beaucoup d'autres malades, j'ai fait face à l'invalidation et au déni médical. On m'a incité à reprendre ma vie, à faire de l'exercice. Mes symptômes ont été attribués à l'anxiété, à la dépression et au déconditionnement physique. Je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de vivre. Je connais bien l'anxiété et la dépression, je savais pertinemment que j'étais face à un monstre très différent. Ne pas être cru par les personnes qui sont censées trouver les solutions était terrifiant. Je me suis sentie extrêmement seule. Mon médecin m'a dit de retourner au travail. Évidemment, ça ne s'est pas très bien passé. Pour travailler sur mon ordinateur, j'avais besoin d'une bassine à côté de moi car je sentais que je pouvais vomir à tout moment. Dans la file d'attente d'une pharmacie, j'ai dû m'asseoir sur la chaise réservée aux personnes âgées car je ne tenais plus debout. En quelques semaines, j'étais confinée à la maison, puis clouée sur mon canapé. En France, il y a très peu de spécialistes qui connaissent les syndromes post-Covid. J'ai pris un rendez-vous avec l'un d'entre eux, mais il y avait 7 mois de délai. En attendant, j'ai jeté toutes mes forces dans les recherches. La phase de recherche. À ce stade, ce que je vivais était surréaliste. Ma vie s'était brutalement arrêtée, quasiment du jour au lendemain, et personne ne savait comment m'aider. J'avais perdu ma capacité à travailler, à avoir une vie sociale, à faire du sport, et je n'arrivais plus à imaginer le futur. La moindre tentative d'effort physique déclenchait des symptômes, mais mes capacités cognitives étaient encore à peu près intactes. Compte tenu de mes symptômes et de la sévérité de mon état après seulement 2 mois, ainsi que de mon intolérance complète à l'effort, j'ai rapidement dû admettre que je me dirigeais vers la version EM-SFC du Covid long, qui est souvent décrite comme la pire issue. Le consensus médical officiel au sujet de l'EMSFC, c'est que la guérison complète est extrêmement rare, qu'il n'existe pas de traitement curatif et que les patients ne peuvent compter que sur la gestion de leurs symptômes pour le restant de leur vie. La plupart des groupes de soutien sont remplis de personnes qui sont, de façon très compréhensible, désespérées. J'étais de plus en plus terrifiée. J'ai toujours été une personne plutôt pessimiste, mais pour une raison qui m'échappe à ce moment-là, mon cerveau buté a refusé d'accepter que cette maladie ferait partie de ma vie pour toujours. J'ai donc réorienté mon approche et j'ai commencé à chercher frénétiquement comment guérir du Covid long. J'ai rapidement trouvé des histoires de guérison et des groupes de soutien positif dans la sphère anglophone. Après avoir lu des dizaines de témoignages, j'ai remarqué qu'un point commun ressortait nettement. La majorité des personnes mentionnaient un travail sur leur système nerveux qui avait permis d'améliorer leur état ou de guérir complètement. Je ne savais pas encore exactement ce que ça voulait dire, mais je l'ai gardé en tête. J'ai pris la décision de rester optimiste et de continuer à chercher une issue, quoi qu'il arrive. Dans cette épreuve, j'ai eu l'énorme chance de parler anglais couramment et de pouvoir continuer à le lire et à le parler malgré le brouillard cérébral. Les ressources anglophones que j'ai trouvées m'ont sauvé la vie. Et c'est pourquoi il me tient à cœur d'écrire ce blog dans les deux langues. Il n'existe quasiment aucune ressource positive en français, et l'espoir a été mon principal carburant depuis 20 mois. L'aggravation. Après des mois de variations extrêmes dans mes symptômes, j'ai eu des crises d'angoisse pendant plusieurs jours. S'en est suivi un énorme crash, et pendant les mois suivants, mon état n'a fait que s'aggraver. J'ai touché le fond après un an de maladie. J'ai listé plus de 60 symptômes différents qui ont affecté mon corps, mon cerveau et mon esprit. Certains symptômes sont allés et venus, d'autres sont restés plus constants. Le principal était la fatigue écrasante qui augmentait déraisonnablement au moindre effort. Le mot fatigue ne nous rend pas justice. C'était comme si mon corps était en train de s'éteindre sous une chape de plomb. Pour lister quelques autres symptômes, des acouphènes, des hallucinations auditives, du brouillard cérébral, des pertes de mémoire, de l'anxiété, sensibilité au son et à la lumière, pression dans la tête, problèmes de vision, insomnie, la liste est interminable. Au plus bas, j'étais dans un état très sévère selon les différentes échelles de sévérité de l'EMSFC. J'étais complètement alitée, allongée à plat, 23 heures sur 24. Je ne me levais que pour aller aux toilettes, parfois en rampant. J'avais du mal à m'asseoir, à manger, à parler plus de quelques minutes. Je n'arrivais plus à me doucher, parfois pendant plusieurs mois, alors j'ai demandé à ma mère de me couper les cheveux très courts. Je ne pouvais pas regarder un écran, lire ou écouter de la musique pendant plus de 10 secondes. Il n'y avait plus aucune distraction possible. Le moindre bruit était insupportable, alors j'ai acheté un casque anti-bruit. Dès que j'essayais d'en faire un peu plus, les symptômes augmentaient à des niveaux insupportables pendant des heures, parfois des jours, et rien ne les soulageait. C'est impossible à imaginer sans le vivre. Comment peut-on s'effondrer pendant une journée entière juste parce qu'on s'est brossé les dents ou coupé les ongles? C'est la réalité de cette maladie. J'ai fini par perdre mon travail, que j'adorais, et j'ai dû compter sur mes proches pour prendre soin de moi à temps plein, pour faire les courses, les repas, le ménage et s'occuper du chat. C'était de loin la période la plus sombre de ma vie. Je me souviens avoir eu l'impression de perdre ma dignité d'humain, prisonnière de mon propre corps, sans savoir combien de temps j'allais pouvoir supporter de vivre comme cela. Même si j'étais persuadée que la guérison était possible, s'accrocher à l'espoir devenait vraiment difficile. La lumière au bout du tunnel. J'ai finalement eu mon rendez-vous avec le spécialiste du Covid long. On m'a prescrit un médicament appelé LDN pour low dose naltrexone. À faible dose, la naltrexone semble réduire la neuro-inflammation et réguler le système immunitaire. C'était la première et la seule intervention médicale qui a eu un effet positif sur moi. Je ne pense pas que ce médicament traite la cause de la maladie, mais il m'a donné une étincelle d'énergie, juste ce dont j'avais besoin pour retrouver de l'espoir et stopper la spirale d'aggravation. J'étais toujours coincée au lit, mais j'ai commencé à pouvoir lire, écouter et regarder des choses pendant quelques minutes d'affilée. Une note sur les médicaments. Je ne vais pas parler plus en détail de médicaments sur ce blog. Je partage mon expérience positive avec le LDN, mais prescrire des médicaments relève exclusivement de votre médecin. J'ai recommencé à lire, très lentement, au sujet du système nerveux. J'ai à nouveau remarqué que le point commun des personnes guéries, c'est qu'elles avaient réussi d'une façon ou d'une autre à calmer les réactions chaotiques de leur système nerveux. J'ai voulu en savoir autant que possible sur le sujet et voir si cela pouvait s'appliquer à mon cas. Rassembler les informations utiles a été très laborieux, compte tenu de la quantité de contenu disponible et de mon niveau d'énergie très limité. Je ferai d'autres posts pour expliquer tout ça plus en détail, mais je vous propose un petit résumé de la notion principale ici. Cette approche, appelée Mind-Body Healing, qui pourrait se traduire par guérison corps-esprit, repose sur une hypothèse qui pourrait expliquer la cause de la maladie. Après un virus ou une charge de stress extrême sur le corps, le système nerveux pourrait se retrouver bloqué dans une réponse physiologique de survie, et cela crée une cascade de symptômes bien réels dans le corps. Ramener le système nerveux dans un état de sécurité pourrait lui permettre de se remettre à fonctionner normalement et d'arrêter la production de symptômes. Je suis quelqu'un de rationnel et lucide, j'avais besoin d'une approche concrète et scientifique. Cette explication a résonné comme une évidence pour moi. C'était une hypothèse logique, ancrée dans les neurosciences, qui expliquait l'intégralité de ce que j'étais en train de vivre. Mon corps n'est pas abîmé, mon cerveau est bloqué dans une réponse inadéquate, et mon corps réagit à ces signaux de danger. Encore mieux, au-delà de l'explication, cette approche nous informe que nous avons le pouvoir d'influencer l'état de notre système nerveux, pour l'aider à revenir à son fonctionnement normal. Cela permet ensuite au corps de guérir en utilisant ses capacités de réparation naturelle. Accepter tout cela a éliminé 90% de la peur que j'éprouvais par rapport à la maladie. Or, cette peur aggravait clairement mon état. Je ne savais pas encore exactement quoi faire, mais le chemin de la guérison s'est ouvert devant moi. Je sais que cette approche est controversée. Je sais aussi que beaucoup de personnes sont malades depuis longtemps et que cette approche n'a pas semblé les aider. Ce n'est peut-être pas la réponse unique ou la réponse pour tout le monde, mais ça a été le cas pour moi. Alors je partage ici tout ce qui m'a aidé. Gardez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Guérir. Depuis environ 8 mois, je suis passée de 3% à 50% de capacité grâce à l'approche Mind-Body et un changement radical dans ma façon d'approcher la maladie. S'attarder sur les durées exactes de guérison n'est pas très utile. Nous allons tous à notre propre rythme et on ne peut pas forcer son corps à guérir plus vite. Donnez-vous du temps. Je créerai un post dédié aux étapes de ma progression, mais voici un rapide résumé de ce que j'ai mis en place. D'abord, en apprendre plus sur la science du système nerveux, pour me rassurer sur le fait que les symptômes n'étaient pas dangereux et croire en mon potentiel de guérison. Puis, accueillir les symptômes et les émotions, lâcher prise et arrêter de me battre contre eux, ne plus en avoir peur. Plein de mini-actions pour apaiser mon corps et mon esprit, comme la respiration, le sourire, les automassages, les vidéos drôles, n'importe quelle activité que j'étais capable d'offrir à mon corps à l'instant T. Prendre conscience des schémas de pensée toxiques et les interrompre m'a permis d'éviter les ruminations. Prendre de la distance avec les sources de stress externes, comme les actualités, les personnes négatives ou les réseaux sociaux. Et par-dessus tout, me concentrer sur la joie. Vivre ma vie, peu importe mon niveau de capacité. Si je n'arrivais à tenir qu'une minute devant des vidéos de chats mignons ce jour-là, j'essayais de la savourer au maximum. Accepter mon état du moment, tout en sachant qu'il était temporaire, a été une clé d'apaisement majeure. Mon état continue à s'améliorer chaque semaine, lentement mais sûrement. J'accueille les symptômes qui se présentent sur le chemin, je n'en ai plus peur. Ils sont transitoires et font partie du processus, car la guérison n'est pas linéaire. Je suis maintenant capable de cuisiner, marcher dehors, discuter avec mes proches et m'amuser. Je peux même passer de longues périodes à travailler sur ce blog. J'ai encore des limites et du chemin à parcourir, mais la vie est devenue infiniment plus douce. J'ai une entière confiance dans le fait que je vais guérir, et il a fallu construire cette croyance. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, je sais juste que je vais y arriver. Et pour la suite, j'entends beaucoup de gens dire « je veux juste retrouver ma vie d'avant ». Et je comprends totalement pourquoi. Mais pour ma part, je ne veux pas de ma vie d'avant. La façon dont je vivais avant d'attraper le Covid était tellement peu viable qu'elle me rendait déjà malade. Je suis en chemin vers une nouvelle vie. Grâce à tout ce que j'ai appris sur moi-même pendant ce parcours, je ne suis pas seulement en train de guérir du Covid long, mais aussi de mon anxiété chronique, de mes traumas, de mes schémas destructeurs, de tout ce qui m'a enfermé dans la souffrance pendant les 15 années qui ont précédé ce point de rupture. Quand je sortirai de cette épreuve, j'aurai trouvé un apaisement que je ne pensais même pas accessible. Et pour ça, je suis infiniment reconnaissante. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je sais à quel point le parcours est rude. Je ne souhaiterais cette maladie à personne, même à mon pire ennemi. Guérir mon système nerveux est la chose la plus longue et la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai traversé beaucoup de périodes de doute et de découragement. Si les scientifiques découvraient un traitement miracle, je le prendrais sans hésiter. Si vous traversez un moment difficile, j'aimerais vous dire, ne perdez pas espoir. Rien de tout ça n'est votre faute. Continuez à avancer, un pas à la fois, un souffle à la fois. Offrez-vous autant de compassion que vous le pouvez, et même plus encore. Je vous envoie toutes mes pensées et beaucoup de courage.